Épître à Tite. Introduction. Le grand sujet de l'Épître à Tite est le maintien de la piété qui nous convient en tant que chrétiens, dans nos vies individuelles, dans nos relations terrestres et dans notre attitude vis-à-vis du monde. Dans cette épître, l'apôtre ne dévoile pas l'ordre et le comportement qui devraient nous caractériser quand nous nous réunissons en assemblée, comme dans la première épître aux Corinthiens. Mais il nous instruit sur la conduite qui nous convient dans nos vies privées. Cela est certainement de la plus grande importance, car nous pourrions être excessivement soigneux dans notre comportement extérieur lors des réunions d'assemblée et pourtant être négligents dans notre comportement dans le cercle familial, dans les relations professionnelles et devant le monde. La négligence dans la vie privée conduira certainement à l'hypocrisie qui fait une belle profession en public pour couvrir une pauvre marche en privé. Ne pouvons-nous pas retracer beaucoup de la faiblesse qui caractérise souvent les assemblées de Dieu, même se réunissant selon l'ordre scripturaire, à cette négligence dans la vie privée? Au cours de l'épître, l'apôtre encore et encore insiste sur la relation entre la vérité et la piété. Si la vérité n'est pas maintenue, la piété manquera certainement. Si la piété n'est pas maintenue, la vérité tombera en discrédit. L'apôtre ne présente toutefois pas la doctrine ni le maintien de la saine doctrine comme sujet principal, comme dans les épîtres à Timothée. Il insiste plutôt sur l'importance d'un bon comportement qui est en accord avec la vraie doctrine. Dans le premier chapitre, nous apprenons quelles sont les qualités qui devraient caractériser ceux qui entreprennent de prendre soin du peuple de Dieu, de tenir ferme la vérité et de reprendre les désordonnées. Dans le deuxième chapitre, nous est présenté le comportement qui nous convient comme individus dans les différentes relations de la vie et qui est en accord avec la grâce de Dieu par laquelle nous avons été si richement bénis. Dans le troisième chapitre, nous apprenons quelle est notre attitude comme chrétien vis-à-vis du monde, en accord avec la bonté et l'amour de Dieu envers les hommes. Chapitre 1er, versets 1 à 4. Citation de l'Écriture. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur, à Tite, mon véritable enfant dans la commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Fin de citation. Les versets d'introduction sont de la plus profonde importance, car l'apôtre y fait allusion aux grandes vérités fondamentales du christianisme qui forment la base de notre marche pratique comme croyants, gouvernent notre vie individuelle devant Dieu, comme dans nos relations les uns avec les autres, et notre attitude vis-à-vis du monde. L'apôtre parle des croyants comme des élus de Dieu. L'élection de Dieu englobe tous les élus de Dieu, d'entre les Juifs ou d'entre les nations, et nous sort ainsi du judaïsme qui ne reconnaît que ceux qui sont de descendance juive. Suit un résumé frappant des caractères remarquables des élus de Dieu. Ils sont premièrement marqués par la foi, qui est la porte pour toute bénédiction, acte 14, verset 27, et qui amène le croyant à l'abri de l'œuvre de Christ et en relation avec Dieu. Elle est en contraste avec un système religieux qui consiste en l'accomplissement de cérémonies et en la soumission à des ordonnances, qui sont possibles pour l'homme non régénéré en dehors de la foi en Dieu. Deuxièmement, la foi des élus de Dieu conduira à la connaissance de la vérité, en contraste avec les spéculations et les raisonnements des hommes naturels quant à la vérité, par lesquels non seulement ils ne peuvent pas venir à la connaissance de la vérité, mais sont conduits à résister à la vérité et deviennent réprouvés quant à la foi. De Timothée 3, versets 7 et 8. Troisièmement, il nous est rappelé que la vérité conduira toujours à la piété, en contraste avec l'erreur qui conduit à l'impiété. En écrivant à Timothée, l'apôtre l'avertit contre ceux qui, dans le cercle chrétien, se sont écartés de la vérité. Il doit dire d'eux qu'ils iront plus avant dans l'impiété et qu'ils renversent la foi de quelques-uns, de Timothée 2, versets 16 à 18. Dans ce passage de Tite, nous avons la foi, la vérité et la piété liées ensemble. En Timothée, nous sommes avertis que le renversement de la foi, l'erreur et l'impiété vont ensemble. Quatrièmement, la piété, ou patiente persévérance en faisant le bien, des élus, conduira à la sûre et certaine espérance de la vie éternelle quand la piété aura sa brillante récompense, en contraste avec la part des incrédules qui, par l'injustice, vont vers l'indignation et la colère, comparé avec Romains 2, versets 6 à 8. Les espérances d'un juif ou d'un homme du monde sont limitées à la vie dans ce monde et sont centrées sur les possessions terrestres, l'aise et la prospérité mondaine. L'espérance chrétienne est en relation avec une vie qui ne dépend pas des choses du temps ou de ce monde. La vie éternelle a été promise avant les temps des siècles et relie les croyants avec les conseils éternels de Dieu. Alors que nous traversons le monde, elle nous permet d'entrer en communion avec Dieu comme Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Et on ne jouira de sa plénitude que dans la demeure éternelle de la vie. C'est pourquoi, alors que nous avons cette vie comme possession présente, elle peut aussi être placée devant nous comme notre espérance. Cinquièmement, la vérité selon la piété et notre espérance a été manifestée par la parole de Dieu. Les croyants ne sont pas laissés à la tradition et au raisonnement de leurs propres pensées, mais ils ont l'autorité de la parole de Dieu, dont l'erreur est absente, comme assurance des vérités qu'ils croient. Sixièmement, la vérité manifestée dans la parole nous a été donnée à connaître par la prédication spécialement confiée à l'apôtre, avec toute l'autorité de Dieu pour les nations et, comme nous savons, pour être transmise à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner les autres. 2 Timothée 2, verset 2. Septièmement, la salutation de l'apôtre indique que si nous devons reconnaître la vérité, marcher dans la piété qui est en accord avec elle, avoir devant nous l'espérance bénie vers laquelle elle conduit, comprendre la parole qui révèle la vérité et la proclame à d'autres, nous aurons chacun besoin, comme Tite même, de grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Versets 5 à 9. Citation de l'Écriture. Je t'ai laissé en Crète dans ce but que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Fin de citation. Après avoir placé devant nous les vérités remarquables de la foi chrétienne, l'apôtre indique les raisons qui l'ont conduit à écrire cette épître. Tite avait été laissé en Crète pour un double propos. Premièrement, pour régler certaines choses qui manquaient dans les assemblées de Crète. Deuxièmement, pour établir des anciens afin de maintenir l'ordre. Pour accomplir ce service, Paul écrit pour donner à Tite des directions claires pour qu'il puisse agir avec l'autorité de l'apôtre selon ses instructions. Nous n'avons plus aujourd'hui d'apôtre ni de délégué apostolique pour établir des anciens, et si quelqu'un revendiquait cette autorité, ce ne serait qu'une simple prétention. Il a été relevé qu'il n'y a aucune direction dans aucune des épîtres adressées à des assemblées pour qu'elles établissent des anciens ou choisissent leurs propres conducteurs. Nous devrions toutefois certainement profiter de ces directions et par elles apprendre quelles sont les qualités qui démontrent encore qu'un frère individuel est qualifié pour veiller sur les intérêts du Seigneur et guider les autres dans le maintien de l'ordre et de la piété dans les assemblées locales. On notera que ce n'est pas la possession d'un don éminent qui qualifie un croyant pour un tel service, mais plutôt des qualifications morales. Il doit être irréprochable, non seulement dans sa conduite personnelle, mais dans les circonstances de la vie, à la fois dans le cercle familial et dans ses relations avec les autres. Quelqu'un a dit, tout en donnant aux évangélistes et aux docteurs toute leur place, nous devrions aussi estimer ceux qui, d'une façon similaire et moins voyante, se dévouent eux-mêmes jour après jour pour fortifier les liens de l'affection et pour réprimer les sources de désordre qui, comme nous le savons, jaillissent continuellement dans les assemblées chrétiennes. Pensée de William Kelly. Celui qui chercherait à maintenir l'ordre dans la maison de Dieu doit d'abord montrer qu'il peut maintenir l'ordre dans sa propre maison. Il doit être irréprochable dans ses relations de famille, le mari d'une seule femme, et sa maison doit être exempte de toute accusation de dissipation ou d'insubordination. En outre, celui qui voudrait insister sur la piété auprès des autres doit lui-même être marqué par la piété. L'apôtre fait ainsi un contraste entre l'impiété de la chair, marquée par la propre volonté, la passion, la violence et la convoitise, avec la piété, marquée par l'hospitalité, l'amour du bien, la sobriété, la justice, la piété et la tempérance. De plus, celui qui voudrait instruire les autres dans la parole doit lui-même tenir ferme la fidèle parole, selon qu'il a lui-même été enseigné par des hommes fidèles. Comparé 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Tenir ferme la fidèle parole nous permettra d'un côté d'exhorter le peuple de Dieu par la saine doctrine, et d'un autre côté de réfuter les contredisants. Ce n'est pas la connaissance de l'erreur qui nous permettra d'y faire face, mais la connaissance de la vérité, tenant ferme la fidèle parole. Nous avons besoin d'être sages quant au bien et simples quant au mal. Romains 16, verset 19. Versets 10 à 16. Citation de l'Écriture. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas pour un gain honteux. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés. Fin de citation. En contraste avec ceux qui tiennent ferme la vérité révélée dans la fidèle parole, qui mène à la piété, il y avait dans ces premiers jours des hommes vains discoureurs, qui enseignaient l'erreur, séduisant ainsi leurs auditeurs et conduisant à l'impiété parmi le peuple de Dieu, en renversant des maisons entières. Ils étaient animés par la basse motivation du gain. Ces faux docteurs se trouvaient en particulier parmi les Juifs qui s'opposaient à la vérité en cherchant à entraîner de nouveau les chrétiens vers une religion de forme et de cérémonie extérieure dans le culte du temple qui plaît à la chair. Lorsqu'il était ici, le Seigneur dénonçait les conducteurs d'un judaïsme corrompu comme étant des hypocrites qui honoraient Dieu de leurs lèvres mais avec un cœur éloigné de lui, et qui avait changé la maison de Dieu en une caverne de voleurs. La chair ne change pas, et les assemblées chrétiennes sont ainsi confrontées au danger de lier avec une profession de christianisme les formes extérieures de la circoncision, ce qui conduit à utiliser une profession religieuse comme une source de gain. Nous apprenons en outre qu'en cherchant à maintenir l'ordre et la piété dans les assemblées de Dieu, nous devons prendre en compte les différentes caractéristiques des personnes formées par leurs circonstances et leur nationalité particulière et qui peuvent conduire la chair à se manifester dans des mots spéciaux. Les circonstances des Crétois les rendent particulièrement sujets à la tromperie, à la paresse et à la gourmandise, des caractéristiques sur lesquelles un de leurs propres prophètes avait attiré l'attention. Ces manifestations de la chair, si contraires à la piété, exiger de sévères réprimandes afin qu'ils soient saints dans la foi, et donc préserver des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Revenir à un faux enseignement et faire une profession religieuse pour un gain honteux, c'est ouvrir la porte à toutes les tendances naturelles de la chair et conduire ainsi à l'impiété. Les âmes deviendraient ainsi souillées dans leur entendement et leur conscience. Cela conduit à l'état terrible dans lequel une profession de Dieu est liée à des œuvres qui sont un déni pratique de Dieu. Aux yeux de Dieu, ces professants sont abominables et désobéissants, et, à l'égard de toute bonne œuvre, réprouvés. N'est-ce pas un tableau solennel de la chrétienté de ces derniers jours, ayant la forme de piété, mais en ayant renié la puissance ? 2 Timothée 3, verset 5.